si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, Stéphane à la manœuvre et Béatrice Malige, moi-même, hors champ un petit peu, mais audible, en voix off. Et je vous parle aujourd'hui de Andrzej Wajda. Wajda, W-A-J-D-A, qui nous a quittés à 90 ans le 9 octobre dernier. Ce réalisateur polonais, on peut dire que c'est la conscience morale des Polonais. C'est-à-dire qu'il a réalisé une œuvre engagée, des films inspirés par la résistance polonaise contre les nazis. Alors, on le connaît surtout pour son film qu'il a réalisé en 1977, L'homme de marbre, qui était une critique de la Pologne communiste. Et à sa suite, 3 ans plus tard, il va faire L'homme de fer, qui raconte au fond Solidarność. Vous vous souvenez, évidemment, c'est l'histoire de ce syndicat libre dans le monde communiste. Film, d'ailleurs, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Palme, d'ailleurs, qu'il a offerte au musée de Cracovie, ainsi que son Oscar, qu'il a reçu en 2000, l'année 2000, pour, on va dire, l'ensemble de son œuvre. Et cette palme, la palme d'or qu'il a eue à Cannes, on peut dire qu'elle l'a sauvé parce que c'était l'époque où, du coup d'état, du coup de force du général Jaruzelski. Et évidemment, on peut dire que Wajda n'était pas du tout en odeur de sainteté. Donc cette palme l'a, d'une certaine façon, sauvé. Alors, Wajda fera ensuite des films à l'étranger, et notamment Danton. Danton, c'est un film en 1983 avec Gérard Depardieu qui tient le rôle évidemment de Danton. C'est un film qui se passe sous la Terreur, donc en 1794, et c'est un affrontement entre Danton et Robespierre. Ça a été adapté d'une pièce de théâtre et l'adaptation a été faite par Jean-Claude Carrière. Voilà. Donc, écoutez, Stéphane, tu en es d'accord? On va s'écouter la bande-annonce du film Danton de Wajda qui a été réalisé en 1983. Et d'ailleurs, pour ce film, il a été considéré comme étant il a eu le César du meilleur réalisateur en 1983. On écoute.
J'exclus du débat l'accusé Danton.
Hein? Il y a cette tête, c'est toi qui seras obligé de la couper.
Excuse-moi. Tous les deux, nous nous sommes trompés.
Maxime, tu dois maintenant instaurer la dictature en France.
Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu vois pas de vin, t'as l'esprit poudré! À la vue d'une épée, tu t'évanouis! Et il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors! Au nom de qui tu te parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme! Ah!
Soldats! Cette blessure! Voyez tout sur ma poitrine!
On ne l'a pas tué. Parce que Danton est une force de la vie.
Car je suis immortel! Je suis immortel parce que je suis le peuple! Le peuple est avec moi! Et vous les assassins, vous serez jugés par le peuple!
Camille!
Venez voir ce Danton!
Alors Alors, toujours en dehors de sa Pologne natale, il va faire en 1988 un autre film tout à fait intéressant. Il s'agit de « Les possédés », d'après Dostoïevski, bien évidemment, et c'est donc avec Isabelle Huppert. Et alors, après la chute du communisme, donc en 1989, ben il va recommencer à faire des films d'histoire qui sont souvent adaptés d'œuvres littéraires polonaises, comme par exemple en 1999, quand Napoléon traversait le Niemen, ou encore La Vengeance, en 2002. Un film étonnant est à noter, c'est celui qui a été réalisé, celui qu'il a réalisé en 2008, c'est Katyn, K-A-T-Y-N. C'est un film qui a été nommé aux Oscars, qui n'a pas eu d'Oscar, mais qui a été nommé. C'est un film très émouvant parce qu'il raconte l'histoire de son père. Son père, en effet, était officier de carrière et avec deux autres, 22 500 officiers polonais, il a été massacré par les soviétiques en 1947. Et ce film raconte ça. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont été massacrés d'une façon incroyable, notamment exécuté d'une balle dans la nuque. Voilà. Et donc c'est un film, Katyn, qui a été fait en hommage à son père. En 2013, il va faire L'homme du peuple. Et là, c'est un film qui est consacré à Lech Walesa, que vous connaissez puisque c'était le personnage qui a même eu un prix Nobel et qui a permis Solidarność, qui est cette révolution d'une certaine façon polonaise. Il y a un film qui n'est pas encore sorti, en salle, il s'agit de Powidoki. C'est l'histoire d'un peintre, c'est l'histoire des dernières années de la vie de ce peintre d'avant-garde qui est en lutte contre le pouvoir stalinien. Donc c'est pour vous dire que tous les films de Vajda sont vraiment des références même historiques, tout à fait intéressantes. Et je crois que dans ce film, Powidoki, que l'on verra bientôt sur nos écrans, est une sorte de métaphore de la Pologne actuelle, dirigée par des conservateurs du Parti Droit et Justice. Mais le film sur lequel je veux me focaliser, c'est Tatarak. C'est un film magnifique, c'est le dernier film que j'ai vu de Vajda. C'est une sorte de promenade entre l'amour et la mort, aussi bien pour les êtres humains que pour les personnages ou acteurs, car le film est une mise en abîme. C'est une actrice qui parle des derniers moments de la vie de son mari, qui était un directeur de la photographie, mais c'est aussi une actrice qui a déjà joué d'ailleurs dans L'Homme de marbre, notamment dans un film de Vajda. Et là, elle s'apprête à tourner dans un film de Vajda qui justement s'appelle Tatarak. C'est ça l'idée. Alors Tatarak, eh bien c'est le nom qui est donné à un jonc, je ne sais pas comment on dit, qui pousse dans la vase et qui a une odeur de mort. L'idée même, c'est qu'il recèle l'arôme du trépas. Voilà, vaste programme. Et donc, c'est le titre du film que Vajda va tourner avec la comédienne qui est là en scène et qui se souvient de son mari, directeur de la photographie, qui était aussi le directeur de la photographie, évidemment, de Vajda. Donc, c'est un film qui s'articule sur l'idée de la perte du temps qui passe et la perte des êtres aimés. Un film qui est teinté de mélancolie, c'est évident, mais il n'y a rien de sordide ou de pathétique dans les films de Vajda. Le tout est lié à une nature magistralement filmée, dans lesquelles, notamment, enfin, on est dans les bords du lac, des herbes ondulantes, et il y a aussi des corps qui se mêlent d'une façon solaire et sensuelle. Il y a dans les films de Vajda, et notamment dans Tatarak, une véritable communion charnelle. C'est un film, Tatarak, qui parle de mort, mais qui déborde de vie. Eh bien Stéphane, on va s'écouter la bande-annonce, c'est parti.
Czy pani to pani?
Tak, to ja.
Gdzieś tu film kręcicie?
Ten film mieliśmy robić w tamtym roku.
Tatarak jeden!
Młodość jest bezwstydna.
Zapominasz o jednej rzeczy. Życie łatwo przechodzi w śmierć.
Zrozumiałam, że nie chcę, żebym robiła film. Że chcę być cały czas ze mną. Powiedział, Andrzej na ciebie poczeka, nie martw się.
Ja
Nie wiem, co wtedy czułam. Spokój.
Revenons donc un petit peu plus précisément aux images du film de Vajda, Tatarak. C'est un film réalisé donc par Vajda, mais c'est un hommage à son directeur de la photo, j'y faisais allusion à l'instant, directeur de la photographie qui s'appelait Edouard Klosinski et qui est décédé lors du dernier tournage de Vajda. Et il était marié justement à la comédienne Christina Janda, qui est là, dans le film, actrice aussi de théâtre, et qui est présente très souvent dans les films de Vajda, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, dans L'Homme de marbre ou même L'Homme de fer. Alors, l'œuvre de Vajda tourne toujours autour de la mémoire, du manque, de la présence et de l'absence, et en particulier Tatarak. Donc avec une grande élégance, les premières images du film nous plongent dans l'univers aqueux de la naissance et de la mort, c'est-à-dire une espèce de liquide amniotique et en même temps on peut se noyer. Et le titre du film, donc je vous le disais, est donné par cette herbe, ce jonc qui pousse justement dans cet univers aqueux. Et dans cette eau scintillante, lumineuse, agitée, eh bien, on peut aussi plonger pour ne plus revenir. Et c'est naturellement que le premier plan du film, après cette série de plans abstraits qui peu à peu se dévoilent leur identité, eh bien, où tout d'un coup on peut ressusciter d'une forme de noyade, eh bien, tout d'un coup vous avez Christina Janda, donc la comédienne de Vajda, qui se relève brusquement sur un lit au drap noir, dans une chambre éclairée par deux fenêtres, dont l'une est en face et face au lit, et porteuse d'une lumière extrêmement forte. Alors, il se trouve que cette comédienne est à la place de son mari. Elle sort de la mort dans laquelle elle est plongée, comme lui, mais si lui est absent, elle reste présente. Et c'est au fond tout le problème. Elle fume, elle est au centre de l'écran, au centre de cette pièce couleur de nuit, face à la fenêtre, et elle se souvient. Et elle se souvient qu'elle a pris des photos de lui. Comme lui, au fond, elle a filmé, comme lui filmait les personnages de Vajda, elle a filmé son mari, directeur de la photographie. Quand je vous disais en introduction qu'on est dans un film qui est une mise en abîme, complètement, c'est du cinéma dans le cinéma. Donc cette comédienne tourne en rond, elle parle de l'IRM du cerveau de son mari, elle se déplace vers nous. Le cadrage est immuable, ne bouge pas, mais en se rapprochant, sa propre tête disparaît. C'est quand même intéressant, parce que justement, il avait un problème de cerveau. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une espèce d'osmose vis-à-vis de son mari et l'absence de son mari. Ensuite, elle va vers la fenêtre éclairée, puis celle beaucoup plus loin, d'où ne jaillit d'ailleurs aucune lumière, et elle revient au centre, elle s'assoit sur une chaise. C'est intéressant de noter aussi cette gestuelle. Elle n'est pas debout. Elle n'est pas couchée, elle est assise, un peu comme le pharaon, vous savez, c'est-à-dire qu'on est dans ce passage entre l'élévation et le fait d'être couché. On est mort ou vivant, ben on est entre les deux, on est entre les deux. Donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est la présence de ce directeur de la photographie qui est pourtant absent, décédé, mais il est présent par son portable, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler puisqu'il répond. On écoute son message, le message n'a pas été effacé, il est là. Donc le message d'accueil est là, il va nous écouter et en même temps il ne répondra jamais. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça de la vie que Vajda a su parfaitement souligner. C'est une mort donc qui est liée au scénario que Vajda va tourner, qui s'appelle donc Tatarak, et ce jonc qui a l'odeur de mort. Et ce film se poursuit avec une deuxième histoire, celle d'une femme condamnée, mariée à un médecin, dont les deux fils ont été tués pendant l'insurrection de Varsovie. Et ça, c'est tiré parce que Vajda a fait une espèce de méli-mélo comme ça, avec plusieurs idées, notamment donc cette comédienne qui parle de son mari défunt, mais aussi cette nouvelle du romancier polonais Jarosław Iwaszkiewicz. Alors là, pardon, je parle très mal polonais, vous l'avez entendu, Iwaszkiewicz. Bon, je pense que je ne détruis pas trop son nom. Et donc, cette histoire est imbriquée dans la réalité des personnages qui aide à la fabrication des films, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de réalité, mais qui est liée à des histoires, notamment aussi, puisque je parlais d'un romancier polonais, mais une troisième histoire, c'est une histoire d'un écrivain hongrois, Sándor Márai, et avec le directeur de la photographie. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, il y a une espèce de la réalité, la fiction, tout ça se mélange, et évidemment, c'est une rencontre, il va y avoir une rencontre avec des jeunes hommes qui sont la vie, et tout ça est un tout, la mort et la vie sont un tout, ben oui, on le sait, voilà. C'est comme si la comédienne voulait encore endurer la maladie de son mari opérateur. C'est comme si la rencontre avec le jeune homme était une façon de redonner vie à ses deux fils qui auraient 20 ans. Comme lui. C'est-à-dire, vous voyez, on perpétue quand même quelque chose constamment. Et le quiproquo, ça c'est intéressant aussi à noter, parce que le jeune homme, quand il voit cette femme qui lui procure, enfin qui lui montre qu'elle est très attachée à lui, en réalité, elle, c'est juste un sentiment maternel, mais lui se demande si c'est pas un sentiment plutôt de l'ordre de l'amour, un petit peu vraiment beaucoup plus sexué, quoi, évidemment. Donc, dans le chagrin, c'est très intéressant à noter, parce que ça, c'est très bien vu. Ce qui arrive dans le deuil, dans l'absence de l'être aimé, c'est qu'on se demande à un moment s'il a vraiment existé. Dans le chagrin, l'amour et la mort se mêlent. L'absence est trop présente pour ne pas penser qu'il s'agit d'un rêve, d'une fiction. Et d'ailleurs, elle disait « je l'aimais à la vie, à la mort ». Voilà. Donc cette idée de vie et de mort est omniprésente, vous l'avez compris, dès la lecture d'ailleurs du scénario où la réalisatrice, où le réalisateur et l'actrice sont au premier plan, assis, et tout derrière eux, tout le village danse. Et lorsque Maria, la femme du docteur, au milieu des danseurs, voit le jeune homme en chemise rouge, elle se lève et sort du champ, et le plan reste vide. Un bon moment. Et ça accentue encore cette idée d'absence. Et quand elle marche, évidemment, le long d'un fleuve, là aussi, ça a une valeur symbolique, évidemment, le fleuve, l'eau qui passe. Voilà, et donc, je vous le disais, il y a une grande osmose entre la nature formidable, filmée par Vajda, et aussi les êtres humains. Ça nous renvoie toujours, tout le monde se sent coupable d'être là, à jouer, à parler, à fumer, là devant le public. J'ai envie de dire que c'est aussi certainement le questionnement que se posait Vajda, qui avait à l'époque pour Tatarak 84 ans et qui continuait à filmer encore. Et moi je me disais, il n'en a pas fini. Ben, en effet, il n'en a pas fini, puisque vous voyez, il vient de mourir en 2016, il a 90 ans, et bientôt nous aurons son dernier film sur nos écrans. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Belle vie, avec pourtant bien des difficultés hein, qui ont rendu ce cinéaste et son cinéma assez mélancolique. Et donc, quand on voit ce film, Tatarak, on se dit, tiens, le récit de Christina a quelque chose de théâtral. Mais c'est intéressant, c'est voulu, c'est sciemment, parce que la représentation théâtrale de ce chagrin, ça lui permet aussi de le dépasser. Voilà, je prends un peu de recul par rapport à ça, je théâtralise et je vais beaucoup plus loin. Voilà, donc, et par rapport aux fenêtres lumineuses qui sont dans ce premier plan dont je vous ai parlé, dans l'acte 1, on s'aperçoit qu'elle est fermée, puis tout d'un coup, elle recommence à prendre un peu de lumière. Voilà. Et donc, la mort et le vide sont dans les cadres. Et voilà, donc c'est évidemment, c'est très difficile quand on ne voit pas le film, parce que c'est un film assez, pas complexe, mais fort, quoi. Et à un moment, quand on lui dit, on lui demande, mais est-ce que ton mari est mort? Elle dit, je ne sais pas. Voilà. Et ça, c'est très bien vu. Et puis évidemment, après tous les mots, vient le silence, et la chambre vide, et un lit sombre, et il y a quelque chose malgré tout qui est présent, mais invisible. Donc c'est un film dont la construction est intelligemment inventive, et où le chagrin est dit avec élégance, questionnement, quelques réponses, mais en même temps pas toujours satisfaisantes. C'est un film intime, et il y a, Vajda a réussi à faire de cette absence et de la mort une poésie de l'amour et de la mort. C'est un très très beau film, et à l'époque je me disais, Vajda n'est pas mort, et bien je crois que même s'il est mort, il reste quand même extrêmement vivant à travers tous ses films, et pour notre plus grand plaisir. Donc Vajda, je crois que beaucoup de gens ne le connaissent pas, et c'est vraiment dommage. Et ça me faisait plaisir de lui rendre cet hommage, voilà, qui est fait. Voilà, sur les antennes de FM+, dans Ciné+, vous avez entendu parler de Vajda.